Vous écoutez Indiscopie.
Indiscopie, c'est l'émission qui tend son micro à ceux derrière les jeux vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ce quatrième épisode, j'ai dû fouiller dans mes archives et j'ai retrouvé un entretien avec Geoffroy Vincens du studio bordelais Novabox. Il travaille d'ailleurs en ce moment sur un nouveau jeu, Across the Grooves. On s'était rencontrés en fait il y a 2 ans, en 2018, au moment du développement de leur précédent jeu, Sirzai.
Partie des guitaristes ou ça du coup.
Bah écoute, je vais te demander tout simplement de te présenter.
Bonjour, je suis Geoffroy Vincent, je suis fondateur et associé dans le studio Novabox. On fait des jeux narratifs. Voilà, moi je m'occupe la running gag, c'est que si c'est pas du code et pas du dessin, c'est souvent moi qui m'en occupe. C'est pas totalement vrai, mais il y a un fond de vérité. Nico qui est l'artiste m'aide beaucoup aussi quand même sur la partie. Sur la partie marketing, mais voilà, donc je m'occupe de, je suis auteur, je fais la partie scénario, je m'occupe des scripts qui sont les trucs pas très compliqués en informatique pour animer les images, les sons et tout mettre tout ensemble et faire la mise en scène. Et je supervise les conneries quoi.
Les conneries.
Voilà, si je commence à regretter de dire des trucs.
Le planning, les employés, les papiers, j'imagine.
C'est moi qui m'occupe des dossiers.
Bah oui, quand on est indépendant, on gère tout seul, c'est pas évident.
Bon, on est un petit SARL, quoi. On n'est pas 100% freelance, mais...
Vous êtes combien, du coup ?
Alors, on est 2 associés, il y a Raphaël Le Bobinec et moi-même. Raph, c'est la personne qui s'occupe du dev. Donc voilà, il est mi-temps sur le jeu, le reste du temps, il fait de la presta plus classique.
Parce qu'il faut bien gagner des sous.
Exactement, le jeu nous rapporte à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Pour l'instant, on aurait bien se diriger vers 100%. Mais en attendant, on continue avec de la presta classique aussi. Mais il aime ça aussi, donc c'est pas totalement...
Sacrificiel.
C'est pas totalement sacrificiel, non.
Ça fait 11 ans que vous existez.
Ouais.
Vous n'avez pas commencé par faire du jeu narratif.
Non, oui, on a eu plusieurs vies. On a commencé en 2007. On sortait avec l'autre association fondateur qui a quitté la structure pour partir vers d'autres horizons depuis. On a commencé, on avait tous les deux un master en sciences de la cognition, en fait. Moi, j'étais plutôt orienté du côté ergonomie et lui plutôt du côté IA. Et on est entré dans le jeu vidéo vraiment par hasard sur un projet de poker qui s'appelait Partouche Poker Tour à l'époque. D'abord sur PC, après sur Nintendo DS. Et on a développé le module d'IA. Et comme ça s'est bien passé, on a continué en prestataire dans le studio, chez Manonki Studio, qui était un gros studio à l'époque sur Bordeaux. Voilà, puis après il y a la crise des subprimes et on a subi le global économique meltdown, comme disent les Américains, comme beaucoup dans la profession et dans beaucoup de professions d'ailleurs, avec la récession économique. Tous les jeux sur lesquels on bossait, qui étaient les jeux qu'on trouvait de moyen de gamme, qu'on trouvait au supermarché à côté des caisses, ce genre de truc a complètement disparu. Et ça arrivait en même temps aussi que le mobile avec l'iPhone et puis Android. Qui a fini de mettre des clous dans le cercueil de ce type de jeu-là, en tout cas sur DS. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est recentré sur la presta plus classique, du développement web et du développement iPhone. Après la DS, l'iPhone, c'était rigolade, parce qu'il y avait plein de mémoire et plein de pixels, et c'était beaucoup plus facile que ce qu'on a vécu avec la petite console Nintendo. Et donc, on a fait ça pendant quelques années, puis bon, comme ça, nous... On aimait quand même bien le jeu vidéo et le jeu narratif. On a fait un jeu épisodique sur iOS, donc iPhone et iPad exclusivement. C'était un side project qui nous a pris 2 ans à terminer, qui s'est pas du tout vendu. On a fait toutes les erreurs possibles imaginables. Pas le bon marketing, pas la bonne plateforme. Enfin, on a beaucoup d'affection pour ce jeu qui a probablement des qualités.
Comment ça s'appelait ?
Echoes. Ça s'appelait Echoes. C'était une sorte de... On était déjà dans le narratif, mais avec de la recherche d'objets en même temps. C'était la période de Hidden Object. Donc il y a une partie Hidden Object, une partie enquête, texte avec des dialogues, avec des personnages. C'est un jeu qui était adapté au mobile. On était en portrait, on n'était pas en paysage. On s'était adapté vraiment au truc, ce qui fait que le portage était quasiment impossible après. Enfin bon, bref. On n'avait plus porté sur PC après. Voilà, on l'a amené au bout, parce que quand on commence un truc, on le termine, même si c'est parfois pas toujours une bonne idée. Il vaut mieux parfois ramasser son dentier et s'arrêter, mais là on l'a amené jusqu'au bout. Et on a appris plein de trucs en le faisant, ça nous a mis le pied à l'étrier pour les suivants, et donc on a enchaîné après avec The Long The Edge. C'était un projet sur 9-10 mois entre 2015 et 2016. Ensuite, on a fait Orphanage Diaries, qui est une sorte de side project pour Orphanage, qui a été kickstarté récemment. C'est le projet d'Adrien Forestier et de Maxime Solaire, hein, sur Black Flag, des Bordelais aussi, hein, qui font un jeu absolument formidable. On a eu un coup de cœur pour leur univers, donc on a bu des coups ensemble, puis on a dit on va vous faire un petit jeu narratif pour accompagner le truc.
Donc c'est vous, d'accord.
Donc Orphanage Diaries, c'est nous, ouais. Ok. Voilà. C'était chouette. Ça nous a pris 6 mois de notre vie à peu près, ce qui était beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Bon, encore une bonne leçon, on sait que les projets de 2 mois, ça n'est pas possible.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ouais. Mais bon, il fallait qu'on essaye pour le savoir. Mais on ne regrette absolument pas le temps passé, parce que c'est un projet vraiment chouette qui nous a emballés. Et on est content de ce qu'on a fait sur Enfin Géry. Ça nous a permis de tester des nouvelles choses aussi qu'on est en train de réutiliser dans le suivant, dans Sirzaï, qu'on a démarré en l'été dernier, qu'on est en train de terminer pour une sortie à la fin de l'été, là.
Septembre,
ouais. Ok. Septembre, ça reste. On avait annoncé Summer 2018, c'est limite, mais ça reste Summer.
Si tout se passe bien, cette interview sera en ligne en septembre. Donc, si tout se passe bien.
Bon, ben c'est parfait alors.
Et heureusement, je n'avais pas précisé l'année, car comme vous pouvez le constater, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le jeu est donc dispo depuis près de 2 ans. Et je vous le conseille très chaleureusement.
Bon, Sirzail, ouais. C'est ça ?
Sirzail, tout à fait. Ouais.
C'est pas facile à dire.
Oui.
C'est quoi le pitch, du coup ?
On suit un groupe de jeunes chamans dans une espèce d'Europe du Nord un peu fantasmée, hein, entre les Pictes et les Celtes, qui arrivent sur une île. Et qui doivent monter au sommet pour aller rencontrer les esprits et devenir les guides spirituels de leur clan respectif. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'île, bah, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas seuls sur l'île, qu'il y a quelqu'un qui les observe, et peut-être que ce quelqu'un est en fait la narratrice de l'histoire finalement. On ne révèle pas la fin évidemment,
ah bah
mais... Mais bon, on est obligé quand même de parler de la première moitié du jeu. Donc voilà, ça se passe dans le premier 30% du jeu, c'est ce qui se passe.
Oui, même dans le chapitre 1, on comprend rapidement que le narrateur est un observateur, en fait.
Ouais, bah, tant mieux si on le comprend, c'est le but.
Sirzail, c'est un jeu narratif.
Ouais.
Comment ça se présente finalement ? C'est des images qui défilent, du texte, c'est beaucoup d'écriture. Comment ?
Bah, on est vraiment sur. Nous, on se plaît à appeler nos projets des romans graphiques interactifs. Hein. Roman graphique, c'est la bande dessinée pour adultes en one shot, contrairement aux séries de comics. Hein. Les graphic novels en anglais, en français, c'est un peu moins connu. Mais et du coup, on fait vraiment de la BD interactive. Quoi. On est à la lisière du jeu vidéo, en fait. Il n'y a aucun gameplay, ça ne demande aucune dextérité. Quoi qu'il arrive, on arrive au bout de l'histoire. Il y a des fins différentes, mais il n'y a pas de game over anticipé si on fait un mauvais choix. Et ça, c'était vraiment une volonté d'avoir une expérience de lecture. On retrouve un peu l'univers des livres dont vous êtes le héros, qu'on lisait, enfin que je lisais quand j'étais petit, dans les années 80. Il y a ce côté-là, puis bon, c'est un peu inspiré aussi des visual novels japonaises, mais on est à la fois un peu dans la même veine en termes de présentation, mais aussi très différent, et on se différencie encore plus sur Sirzail, hein, où on a complètement retiré le côté avec les deux personnages qui sont de part de l'écran et le cartouche en bas. Là, on est vraiment parti sur des phylactères, comme dans la BD, avec des bulles qui apparaissent à l'écran à différents endroits, des champs contre champs sur les dialogues. Donc, dans nos présentations, on se dirige vraiment vers un truc plus BD, qui est un peu plus à nous, vraiment proche de la BD européenne. C'est pas non plus les Telltale. On va avoir un peu le même rythme de choix que dans les Telltale, où chez les Japonais, il y a très peu de choix. C'est vraiment une façon de raconter des histoires qui sont souvent peu interactives, finalement. Il va y avoir 3-4 choix dans l'aventure. Qui vont déterminer la fin, qui vont déterminer les telltales. Les choix n'ont pas vraiment d'incidence, c'est une sorte d'illusion de choix, mais il y a des choix très fréquents, en fait, et des choix moraux prenants. On est un peu plus de ce côté-là, sans le côté moral. Il y a des moments où on va choisir d'aller à gauche ou à droite, et du coup on va avoir une séquence différente après. Mais notre spécificité aussi, c'est que les choix qu'on fait sont... c'est des mini-choix, en fait, qui vont influer petit à petit sur les relations entre les personnages, sur le personnage principal, hein, qui vont du coup déterminer les fins, mais de manière douce, finalement. On a l'impression peut-être que... Enfin, on peut imaginer que c'est le jeu qui décide à notre place, mais en fait, non, c'est nous qui avons décidé petit à petit de choisir avec des moments de choix tranchés qui vont dans une direction ou dans une autre, hein, avec toujours des droits au remords pour prendre les possibilités de revenir sur notre décision petit à petit. Voilà, on a vraiment une façon d'aborder les choix un peu différentes.
Comment on écrit justement toute cette arborescence de choix? Ça doit prendre du temps, finalement.
Oui.
Combien de temps on met pour écrire?
Moi, je mets à peu près... Long Ziyech, c'était 9 mois, c'était quasiment 9 mois d'écriture. Et là, sur Sirzail, on va avoir un projet qui va être sur un peu plus d'un an, et c'est pareil, le scénario, je l'ai terminé très récemment. Enfin, l'écriture, plus que le scénario, le script total, je l'ai terminé le mois dernier.
80 000 mots?
Long Ziyech, 80 000. Sur celui-là, on a un peu moins de mots parce que le découpage en phylactère fait des phrases un peu plus courtes. On est aussi sur une aventure avec un peu plus d'action, qui est moins propice aux grandes introspections qu'il y avait dans Long Ziyech avec des grandes phrases. Donc du coup, c'est un style un peu plus direct, ce qui fait qu'il y a un peu moins de mots. En revanche, il y a plus de lignes de dialogue sur Sirzail que dans Long Ziyech.
Ça donc, correspond à quoi en termes de... Si on comparait à un livre?
Si on compare à un bouquin, on est sur un petit roman. On voit pas le texte complet va faire environ l'équivalent d'un roman de 400 pages. On n'est pas très loin du Prisoner of Azkaban de la série Harry Potter, donc c'est pas le plus gros tome, mais c'est un tome conséquent. En revanche, évidemment, comme on voit pas toutes les lignes, hein, comme on fait des choix. Donc au final, ce qu'on vit, c'est l'équivalent d'un petit roman de 200 pages à chaque partie, en fait. On voit... deux tiers des textes disponibles à chaque partie, en fait.
Bon, et le fait qu'il n'y ait pas de gameplay, justement, ça vous permet de prendre des temps de création beaucoup plus courts, du coup.
Alors, par rapport à une... Oui, oui, oui et non. Enfin, c'est vraiment une approche différente. Le fait qu'il n'y ait pas de gameplay, c'est plus une volonté d'avoir d'expérience, en fait, d'un type d'expérience particulier qu'on a envie de... On a envie de transmettre. On n'enlève pas le gameplay pour des questions de budget, pour des questions économiques. C'est vraiment le type de jeu qu'on a envie de raconter. Et il y a des bénéfices secondaires, en revanche. Les bénéfices secondaires, c'est comme on est vraiment très proche de la BD. On peut faire un jeu avec un auteur et un artiste. On fait un jeu, en fait, comme une BD, quoi. On a un peu de musique, on a un peu de dev informatique, on a de la localisation, mais ça s'existe dans la BD aussi. Hein. Mais avec une équipe relativement réduite, on peut faire un jeu sur un an. Ce qui nous donne une grande liberté créative, en fait, parce qu'on peut prendre des risques, comme c'est pas un projet de 5 ans où malgré les bêta-tests et compagnie, si à la fin, bon, c'est pas si grave, ça met pas toute la vie du studio en danger. Hein. Voilà, on espère ne pas se louper, évidemment. Et après, c'est des budgets relativement réduits qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de ventes. On n'a pas besoin de 100 000 copies vendues pour rentabiliser, en fait.
Justement, un jeu comme ça, ça coûte combien?
On parle argent, d'accord. Là, le budget de Long Ziyech, c'est un budget de 80 000 euros. Et Sirzail, on est sur un budget de 110 000 euros.
Ouais, 100, c'est vrai 110. Que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres productions indépendantes.
Oui, oui. Ouais. Une fois qu'on a le plus cher, il y a la traduction qui est relativement onéreuse parce qu'il y a énormément de mots. C'est pour ça qu'on ne veut pas le sortir dans les 5 ou 6 langues. Il n'y a pas les 1000 textes d'interface à traduire avec continue et pause et compagnie qui sont relativement faciles à localiser en japonais, en coréen, en chinois. Là, 80 000 mots à chaque fois, c'est l'équivalent d'une traduction de roman. Donc on fait le français et l'anglais. Et ça nous coûte quand même de l'argent d'avoir une traduction de qualité. On essaye de monter la qualité à chaque fois sur les textes de la traduction. Sur Sirzail, d'ailleurs, on travaille avec Alix de Liest, qui est relectrice pour l'édition habituellement, et qui nous fait une relecture du texte pour avoir un texte sans typo. Voilà, on essaye de se professionnaliser d'un projet sur l'autre, d'avoir une équipe cohérente et compétente. Mais globalement, oui, ça coûte pas si cher que ça. C'est un nom de travail d'un artiste, c'est un nom de travail de moi, auteur plus extra, quoi. Et en dev, maintenant qu'on a un moteur qui tourne, Rav va intégrer les fonctionnalités qu'on va rajouter d'un jeu sur l'autre, mais c'est plus un taf à plein temps, même pour le dev. On a des briques qu'on réutilise une fois sur l'autre et qu'on améliore petit à petit. Hein. Donc effectivement, c'est un an de deux personnes à plein temps, plus la musique, plus la localisation, plus tous les extras. Donc ça reste des budgets relativement raisonnables.
Et justement, pour la musique, vous travaillez avec un collectif.
Oui, un collectif s'appelle Illustration. Il y en a un qui est à Bordeaux, l'autre qui est à Aix-en-Provence, et le troisième qui est à Bruxelles, qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Victor. Nous, on travaille avec Camille Marcos, qui est sur Bordeaux, et Julien Ponsoda, qui est sur Aix. C'est des musiciens qui ont fait une formation de musique à l'image pour le cinéma au départ. Ce qui fait qu'on a un rapport à l'image qui est vachement intéressant, qui est proche de l'approche cinématographique ou documentaire. Et on a une...
C'est vrai que ça sert beaucoup à l'immersion dans le roman, finalement. Ouais. J'ai envie de dire le roman.
On peut dire le roman, c'est pas du tout un gros mot, quoi. Il n'y a pas de problème.
Je ne voudrais pas vous heurter.
Non, on a bien conscience d'être à la lisière entre le jeu vidéo et la littérature et la bande dessinée. Hein. Le problème, la réalité des choses, c'est qu'on vend sur l'histoire de jeux vidéo, parce que... Et c'est compliqué pour le... Sur Steam et sur les plateformes itch.io et compagnie, il y a une niche de joueurs qui aiment ça, qui aiment les visual novels japonaises et qui sont OK si c'est pas en style manga, parce que certains, c'est pas possible. Si on sort du style manga, c'est pas possible. Il y en a certains qui sont curieux de ce genre de choses, ou qui aiment les telltales et qui sont OK si on est moins dans la grammaire cinématographique et plus dans la grammaire bande dessinée. Et du coup, avec tout ce petit monde-là, on arrive à avoir quand même une communauté des gens qui apprécient nos productions et qui les achètent, quoi. En revanche, sur les plateformes mobiles, pour bien faire, il faudrait qu'on soit sur le iBook Store, mais comme on est une application et qu'on est sur le jeu vidéo, on est en concurrence avec Clash of Clans, Candy Crush et autres Clash Royale, et c'est très difficile de tirer son épingle du jeu sur ces plateformes-là. D'autant plus qu'on veut pas faire de free-to-play. Avec des pubs et compagnie.
Oui, vous, modèle économique, on achète le jeu.
C'est du premium, ouais. Ça coûte le prix, ça coûte un peu moins cher même qu'une bande dessinée, dématérialisée. En revanche, il y a plus de contenu que dans une BD.
Et ça se rejoue.
Il y a de la rejouabilité, ouais. Toujours pareil, on a deux typologies de joueurs, ceux qui vont faire le jeu une fois, avoir une fin, et être satisfaits d'avoir une histoire interactive et d'être arrivés au bout. Et on a aussi les complétionnistes, comme il y a sur tous les types de jeux, qui vont avoir envie de débloquer toutes les possibilités. Et là, selon que j'y ai, je vais aller refaire 6 ou 7 fois le jeu pour tout débloquer. Ça va être à peu près la même chose sur Cirzel. On va avoir 8 fins principales différentes, puis après plein de mini-variantes au cours de l'aventure qui vont étoffer les choix et l'histoire.
Un jeu vidéo sans gameplay, est-ce que c'est encore un jeu vidéo ?
Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question, quelque part. Il y a de la vidéo, il y a de l'interactivité, donc quelque part, le jeu vidéo rentre là-dedans. C'est ce que faisaient les Japonais au départ, quand ils ont fait les visual novels, ils ont pris le principe de narration des JRPG, des jeux de rôle, des RPG japonais, avec le cartouche en bas et les personnages qui se font face et qui se parlent. Ils ont dégagé l'aspect RPG de tout ça pour raconter des histoires avec cette façon de formaliser le récit, en fait. Et on n'est pas si loin que ça, quoi. On est dans la même... côté visual novel, un côté telltale, un côté bande dessinée européenne. Et on a un mix qui est à la fois tout ça et aussi un peu différent, quoi. Donc voilà, à partir de là, je sais pas. Moi, c'est pas à moi de dire. Nous, on se considère vraiment comme hybride. C'est pour ça qu'on parle rarement de jeux vidéo. On parle de roman graphique interactif, de bande dessinée interactive, pour décrire ce qu'on fait. Après, la réalité du marché, c'est qu'on est sur les plateformes de jeux vidéo. Voilà.
Vous faites des salons de temps en temps ou avec d'autres indépendants
Oui, y a Animasia sur Bordeaux, qui est une institution maintenant où ils montent en puissance d'une année sur l'autre. C'est toujours super bien. On avait fait le Japan Tour Festival, je crois, à Tours. Voilà, on en fait quelques-uns. Moi, je suis pas très friand de ça, donc j'ai tendance à y aller à reculant un petit peu.
On
essaye d'être présent, ouais.
Il y a des retours des joueurs à ce moment-là que vous pouvez...
Oui, alors c'est, sur les salons, c'est jamais des retours, c'est pas des bêta-tests, c'est pas des retours qui sont extrêmement pertinents. Ça fait chaud au corps parce qu'on voit des gens qui s'arrêtent et qui testent et qui ont la banane en testant, donc ça fait extrêmement plaisir. D'autant plus que on fait un type de jeu qui est pas très propice à l'ambiance de salon. Quand il y a un brouhaha pas possible autour avec des gens déguisés en Pokémon qui courent et une scène avec Dance Revolution à côté et la musique à fond, mais il y a des gens qui arrivent quand même à mettre le cas sur les oreilles et à chaque salon on a toujours un type qui arrive, qui s'assoit, qui teste et qui termine le jeu parce que On ne fait pas de version censurée. On ne fait pas de version démo raccourcie pour les salons, on met le jeu en entier. Et on a toujours quelqu'un qui, malgré l'ambiance peu propice, va au bout. Va au bout du jeu.
Ça prouve qu'on accroche.
À tous les salons, bah ouais, on accroche des gens, ouais. Voilà, on arrive à accrocher un public.
Justement, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui connaissent pas du tout ce type de jeu? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils testent?
Ça dépend des typologies de joueurs, des typologies de personnes en fait. Pour les non-joueurs, on leur dit « vas-y, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est cool ». On a fait tester des personnes qui sont pas du tout dans le jeu vidéo, qui sont un peu plus âgées souvent, qui ont 50, 60, voire 70 ou même 80 ans. J'ai fait tester ma grande-tante de 88 ans et j'aurais pu la décrocher du truc et c'était une vraie victoire quelque part. C'était une vraie victoire d'arriver à intéresser ces personnes-là. On est vraiment à la lisière, et du coup, les gens qui sont pas joueurs vont leur dire « c'est cool, c'est pas un jeu vidéo, même si t'aimes pas les jeux vidéo, c'est une porte d'entrée quelque part pour peut-être des jeux plus à gameplay, pourquoi pas, hein ?» Et découvrir un univers qui est vachement intéressant, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment une nouvelle forme d'art, et je pense que c'est en train de se développer. Pour l'instant, c'est pas encore reconnu de manière sérieuse comme pouvait l'être la BD dans les années 50 ou les années 40, et il a fallu attendre les années 70-80 pour que ça devienne le 9e art et que ça devienne un art à part entière avec tout ce qui va autour. Nous, on a le sentiment de faire un peu des jeux d'auteur. On essaie de pas être du côté pédant, mais on essaie quand même de dire quelque chose et d'être dans une expression littéraire et artistique. De rien, ça reste grand public. Mais on a quand même cette volonté-là et on essaie de diriger aussi le jeu dans cette direction, quoi, quelque part. Et donc voilà, les non-joueurs, on essaie de leur dire « c'est pas un jeu, vas-y, tu vas voir, ça te demande pas d'avoir des réflexes de malade, tu seras pas puni si tu te trompes, tu peux d'ailleurs pas échouer ». Et du coup, on arrive à convaincre certaines personnes de jouer. Du côté joueur, c'est un peu le contraire. T'as l'habitude des trucs hyper rapides où ça te demande des réflexes, peut-être que une expérience de lecture qui reste quand même à la lisière du jeu vidéo, mais qui n'en est pas réellement, peut-être que ça peut intéresser aussi entre deux parties d'Overwatch ou de je sais pas.
De je ne sais quel jeu à gros budget,
ouais. Peut-être que ça peut intéresser aussi.
Voilà. C'est intéressant parce que c'est comme, on va se tutoyer, comme tu dis, c'est l'opportunité de convertir des gens à des jeux vidéo, peut-être plus à gameplay après, mais peut-être de reconvertir aussi des gens qui ne lisent plus.
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a sur les salons principalement, on a des mamans qui amènent des enfants de 12-13 ans. Tous nos jeux sont pas pour ce genre de public, mais on a fait Orphan Age Iris qui peut être lu par un public relativement jeune, en le prenant au premier degré. C'est des enfants qui sont mis en scène et il se passe rien d'horrible dedans, donc... les parents sont étonnés parce qu'ils ont leur enfant qui fait clic-clic-clic, qui lit le truc et qui s'intéresse du coup. Et c'est chouette, c'est une belle victoire aussi. Ça marche pas à tous les coups. Hein. On en a certains qui s'assoient, qui mettent la casse sur les oreilles, hein, qui appuient frénétiquement pour... et on leur dit « Excuse-moi, il n'y a pas de gameplay en fait, là, c'est le truc. Ah d'accord, excusez-moi monsieur, je m'en vais, c'est pas pour moi. » Voilà, bon. C'est pas pour tout le monde, on le sait. Hein. C'est des jeux de niche et ça n'a pas besoin d'être pour tout le monde de toute façon.
Écoute, je vais te dire merci.
Eh ben, je t'en prie.
Je vais arrêter juste là.
Et je vous quitte avec un peu de la bande-son du jeu Across the Grooves, le prochain donc du studio Novavox. À très bientôt. Et je vous invite vivement à tester Along the Edge, Cirzile ou Across the Grooves. Tous sont disponibles sur Steam, notamment. Je vous mets les infos dans la description de cet épisode. Pour le prochain, on se retrouve à Metz à la rencontre de Sébastien Janvaux, professeur à l'Université de Lorraine, spécialiste des jeux vidéo expressifs. I'm someone else, I'm myself. Again.